Alors bonjour à tous, Laurent Luyader, je suis consultant Agile et DevOps chez Microsoft. Quelques années effectivement qu'on investit dans l'équipe pour faire en sorte de monter en compétence sur ces différents sujets et puis pouvoir justement aider les clients qui éprouvent le besoin justement d'aller sur cette thématique, ce changement de culture et cet esprit de collaboration. Donc j'aime bien garder cette idée qui est à l'image de ce que promeut notre CEO. Parce que ça permet aussi de voir que on peut changer et cette notion de culture permet aussi de s'adapter lorsqu'il y a besoin de s'adapter, que ce soit pour la survie ou pour progresser.
Bonjour, Jean-Marc Desamoré. Pareil, je suis dans la même équipe que Laurent, consultant autour de l'agilité, du DevOps, du Lean Management aussi, entre autres. Moi, j'ai cette petite devise que voilà, la vie est trop courte pour construire quelque chose qui ne sert à rien. C'est ça qui est important. C'est un peu la philosophie du DevOps aussi. Hein, c'est que quand on doit prendre du temps à builder quelque chose, à développer, bah, autant mieux que ça sert à quelqu'un et surtout à notre client. Hein. Il y a un peu fini le temps où on va développer et puis finalement jamais utiliser la fonctionnalité. Ça fait perdre du temps, de l'argent et du stress aussi à tout le monde. Ça va être ça qui est important et c'est un peu aussi la thématique de toutes les clés du confiance du business, c'est-à-dire que vous allez bien livrer ce que attend le business et pas autre chose. Voilà.
Et on va présenter Christophe Gauzet. Du Crédit Agricole Corporate Investment Banking pour effectivement nous faire un retour d'expérience autour de l'agilité, plus particulièrement autour du DevOps.
Oui, donc bonjour. La devise ne s'affiche pas, ce n'est pas très grave. Hein. C'est les Shadocks, pour ceux qui connaissent, ou être un peu vieux, mais c'est que s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et en général, ce que je vois très souvent, c'est qu'on invente des tas de solutions sans s'être posé la question de quel était le problème. Et ces solutions qu'on trouve, en fait, créent de nouveaux problèmes qu'on va résoudre après, puisque forcément on les a créés. Donc là, nous, ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est surtout de s'attaquer aux problèmes, identifier les problèmes et ne trouver des solutions qu'à ces problèmes-là. Surtout pas essayer de trouver ce qu'on fait en général en IT, parce que c'est ce qu'aiment bien faire les développeurs. Tiens, je sais coder en C#, qu'est-ce que je pourrais bien coder en C#? Non. Quel est le problème de l'utilisateur et qu'est-ce que tu vas pouvoir résoudre? Et ce sera peut-être pas avec du C#, ce sera peut-être avec un script en PowerShell ou autre chose. Voilà. Ah, je continue ? D'accord. Alors, donc là, c'est un petit peu axé business, sachant qu'il y a des morceaux de la présentation que j'avais fait au Syntech. Donc, il y a environ une quinzaine d'années, les études et la prod, c'était des fois un peu le même service, ou en tout cas, c'était le service d'en face. Et quand on livrait en production, c'était bien sûr pas automatisé, c'était à la main. Et quand il y avait un souci, alors que ce soit lors d'une release ou que ce soit un incident de production lié à une mauvaise data, etc., on descendait voir le gars de la prod et puis avec lui, on résolvait le problème. Alors, c'était pas toujours très maîtrisé, il y avait des sorties de piste à l'époque, mais en gros, en 10-15 minutes, la plupart des incidents étaient résolus. Sauf que, pas de bol, il y a des tas de régulateurs qui sont passés, il faut absolument couper les opérationnels de la prod, voir qu'ils se connaissent même plus, qu'ils s'appellent par des numéros. Après, dans les années 2007-2008, il y a l'offshoreisation massive qui est arrivée et qui fait qu'en gros, on a envoyé à l'autre bout de la planète tout un tas de process qui n'étaient déjà pas documentés, pas forcément très bien maîtrisés, mais où les gens se connaissant les résolvaient à peu près tous les jours en continu. Donc ces trucs qu'on arrivait à résoudre en 10-15 minutes, c'est devenu des incidents qui pouvaient durer 4 heures, 8 heures, 2 jours, 3 jours, voire même ne pas être résolus. Voilà. Donc bien évidemment, pour le client, c'est légèrement impactant qu'on passe de quelques minutes à quelques jours. Alors pourquoi nous, on fait du DevOps ? Alors, pas DevOps au début, mais plutôt de l'agile. Et puis, que ce soit agile, DevOps, Lean, c'est un peu le même principe. C'est comment on fait pour résoudre nos problèmes et être plus efficace que ce qu'on était encore hier. Bah, le premier truc, par exemple, dans le DevOps, c'est les releases. Et dans l'équipe, quand on dit, bon, qui va devenir patcher, il n'y a pas de doigt qui se lève. Parce que, voilà, donc là, c'est comme la morue, hein, qui veut un coup, personne n'en veut. Donc, premier truc, c'est qu'on avait des développements pour le client qu'on faisait en quelques jours. On faisait la démo, le client emballait, bah, c'est super, c'est exactement ça qu'on veut. On le livre quand ? Bon, bah, nous encore, on était à des releases de 6 semaines, 8 semaines, c'était pas mal, mais c'était dommage d'avoir réalisé quelque chose et de le livrer donc quasiment 2 mois plus tard. ce qu'on a quand même fait sur les 10 dernières années, parce qu'en fait, on fait de l'agile depuis à peu près une dizaine d'années, et du DevOps, dans le sens DevOps qu'on a depuis à peu près 5-6 ans, c'est déjà suivre le comportement applicatif. Donc ça, c'est ce qu'a expliqué Norm tout à l'heure, et je vais montrer un petit peu après. Il y a beaucoup d'applications qui sont livrées sans aucune mesure. C'est-à-dire qu'en gros, on livre une appli, et puis bon, bah, si elle marche, tant mieux. Si elle marche pas, les utilisateurs nous appelleront pour dire qu'elle marche pas, et nous diront qu'est-ce qu'il faut qu'on corrige, etc. Le deuxième truc, c'est la console automatisée de déploiement qui correspond au module MS Release Management qui a été livré là, il y a un an ou deux et sur lequel on va basculer. Où en fait, nous, il y a 3-4 ans, suite au passage en offshore, toutes les mises en production étaient un échec. Donc au lieu de durer une ou deux heures, elles duraient 8, 10, 12 heures. Donc on a dit c'est pas possible. Donc on a tout automatisé et on est passé en ordre de grandeur de 300 jours hommes de coût de livraison par an à 200 jours hommes en investissant 150 jours hommes dans cette console. Et aujourd'hui, pour vous, vu qu'il y a le module MS Release Management qui existe, je ne dis pas que c'est peanuts, mais ce ne sera pas 150 jours hommes, ce sera 10, 15 ou 20 jours hommes. Mais il faut y passer. C'est-à-dire, si vous n'y passez pas, bah, vous allez continuer à avoir les problèmes que vous avez aujourd'hui de le déploiement, au lieu de durer 2 heures, il a duré encore 8 heures, etc. Donc ça, c'est derrière nous. Et ensuite, alors, ce que j'ai entendu ce matin et ce que j'entends souvent, c'est ouais, DevOps, c'est super, ça marche bien, etc. Oui et non. Par exemple, les tests automatisés, il y a des tests qui marchent très bien. Donc les tests unitaires, ça c'est complètement rodé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un développeur n'arrive pas à faire son test unitaire, c'est de manière globale, soit le code qu'il a produit n'est pas de bonne qualité, soit que l'architecture sur laquelle il s'appuie n'est pas bonne. En tout cas, c'est un révélateur qu'il y a un problème. Si on fait un test unitaire et qu'on doit y passer 2 jours pour le faire, c'est qu'il y a un souci. Par contre, en général, une fois qu'il est fait, ça marche et c'est stable. Et quand il y a une régression, on le détecte, parce que c'est ça l'intérêt. Par contre, ce qu'on a beaucoup plus, c'est les tests d'interface où historiquement on était parti avec 10 tests, qu'on a rapidement abandonné pour passer à Selenium, et où cela, on a quand même démarré en 2009, c'est toujours un peu instable. C'est-à-dire qu'on a des matins où une pop-up s'est ouverte dans Internet Explorer de manière impromptue, et qui a bien sûr flingué toute la ligne de tests.
Et juste pour t'interrompre, mais est-ce que là, en l'occurrence, on parle de tests automatisés plus courts, moins coûteux et plus stables ?
Moins long, alors c'est justement, on va y venir. Les tests ne sont pas forcément longs en eux-mêmes. Ce qu'on essaye de faire, pourquoi ils sont longs, c'est qu'en fait, on essaye de simuler l'activité utilisateur. C'est-à-dire, on essaye de réellement simuler ce que font les gens. Si c'est juste pour dire, tiens, je fais un ping pour voir si la page répond, c'est déjà pas mal, mais c'est pas top. Après, coûteux, oui, parce que créer un test automatisé, donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc, soit je fais un simple web test, je vais faire un get sur une page et je vois si elle répond. Bon, ça, c'est assez rapide. La deuxième, j'utilise le recorder, c'est-à-dire je simule le clic avec des boutons, etc. Et j'enregistre tout ce qui est fait derrière. Si vous regardez le code qui est produit, ça fait pour 3 clics 300 lignes. Donc vous imaginez tous vos tests automatisés sous cette forme-là, ça fait des milliers de lignes, donc c'est immaintenable. Et en plus, le jour où l'interface change, il faut les refaire tous. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut repasser dessus. Donc le choix qu'on a eu, c'est de dire on crée une deuxième application, ce que font beaucoup d'autres équipes qui font ce truc-là. On crée une application à côté qui teste l'application. Et ça, il faut le maintenir, et ça devient une deuxième application à côté. Et ça, à faire, ça coûte relativement cher. Alors aujourd'hui, ça coûte de moins en moins cher parce que l'équipe commence à être mature, mais il y a un coût à l'entrée. Par contre, l'intérêt, c'est que ça faisait presque 2 ans qu'on n'avait pas de régression suite à ce truc-là. Bon, pas de bol, là, on en a eu une la semaine dernière, donc c'est l'exception qui confirme la règle. Mais en gros, on se retrouve dans une situation où les utilisateurs ne nous appellent plus pour dire « Tiens, vous avez livré, comme d'habitude, il y a des régressions ». Donc sur les 10 dernières années, les 8 premières, il y avait des régressions de temps en temps, mais comme on pouvait livrer des hotfix facilement, c'était corrigé vite et c'était acceptable, surtout vis-à-vis des autres, en relatif. Par contre, depuis 2 ans, c'est quand même relativement confort. Par contre, un truc qu'on a fait, c'est le problème des tests automatisés, c'est quoi ? C'est que si on veut savoir si un développeur il a cassé quelque chose, par exemple dans la présentation d'avant, on a vu, il y a des tests qui tournent dans la build, et puis après ça passe à la QA. Le problème de la QA, c'est quoi ? C'est que nous, par exemple, on a une testing factory, il faut réserver 8 jours à l'avance. Donc si je veux réserver 8 jours à l'avance, ok, ils vont faire les tests, s'ils ne me trouvent pas de bug, ben, tant mieux, je peux passer en prod, mais j'ai quand même attendu 8 jours. Si jamais ils me trouvent quelque chose, je suis reparti dans un cycle encore de 8 jours. Donc même la QA, il ne faut pas qu'elle soit en manuel, il faut que tout soit automatisé. Et nous, c'est ça qu'on fait, on automatise tout. Et donc on se retrouve dans un truc où aujourd'hui, donc, à chaque build, quand quelqu'un commit, dans les 15, 20, 30 minutes, il a le résultat graduel de ce qu'il a fait, et au bout de 30 minutes, il sait s'il a cassé quelque chose ou pas. Par contre, les tests d'interface, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils tournaient la nuit parce qu'ils étaient trop longs. Donc ils duraient 4 à 5 heures. Là, ce qu'on a fait, on les a parallélisés avec du hub en Selenium. Et on est passé sur nos 300 tests de, en gros, 4 heures à un quart d'heure à peu près, sauf une centaine qu'il faut qu'on arrive à reparalléliser parce qu'ils ont des contraintes entre eux, c'est un peu compliqué. Voilà, donc la cerise sur le gâteau, c'est la parallélisation des tests en cours. Mais ce qu'on voit, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on voit que notre workflow, notre relation avec la prod, la façon dont on délivre, ça reste très loin du client. Et qu'en plus, on continue beaucoup moins qu'avant, suite à quelque chose qu'on a fait en fin d'année dernière, à des fois livrer du code le business n'avait pas forcément demandé et puis forcément, on ne va pas forcément le satisfaire.
Donc, ce que tu veux dire, c'est que le business n'a pas été impliqué en amont.
Oui, alors tout le problème, c'est la vitesse à laquelle on va. C'est-à-dire que quand on n'est pas en agile, ce que j'entends beaucoup, c'est de toute façon, dans un an, on aura peut-être quelque chose. Nous, on est dans un truc où des fois, on livre même avant qu'on nous l'ait demandé. Alors, comment on fait pour livrer avant qu'on nous l'ait demandé? C'est qu'on a un responsable du marketing, et ça, c'est là où on va commencer à parler du business, où en fait, on identifie IT et marketing, qu'est-ce qui pourrait bien arriver dans les semaines et les mois à venir, quelles sont les tendances. Et quand il y a à un moment quelque chose qui a 99% de chances de se réaliser, on ne va pas attendre de nous dire « c'est bon, il faut le faire », on l'anticipe. Donc on a eu par exemple une réorganisation organisationnelle à faire il y a, je crois, 2 ou 3 ans, qui était préconisée à Cassib par un cabinet, qui avait travaillé tout l'été. On sentait que ça allait venir. Qu'elle nous a demandé le responsable du marketing, on l'entame. Donc on l'a entamé août, septembre, octobre. Et quand en novembre, la direction générale a dit « bon, ben, on se réorganise sectoriellement », ils se sont tournés vers le responsable du marketing. Le CRM, il est prêt quand? Dans 15 jours. La DG, ils n'ont pas compris. Quoi, il n'y a que 15 jours de dev? Non, on a déjà tout préparé. On est juste en train de finir et on attendait le go pour déployer. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est pour éviter... je vais quand même réexpliquer ça parce que c'est un peu confus. Quand on est dans des applis qui délivrent à 1 an, 2 ans, le métier, finalement, il ne suit plus ce qui se passe. Il lâche et puis il fait « bon, s'il y a quelque chose qui arrive, tant mieux ». Quand on est en agile, on arrive dans des cycles qui sont des fois tellement courts que c'est le métier qui n'arrive plus à suivre. Et qui fait que nous, régulièrement, on est obligé d'entamer des développements sans avoir eu la validation du métier. Et le problème, c'est qu'on se retrouve à la fin avec « ah ben, c'est pas exactement ça que je voulais ». Donc ce qu'on a fait en fin d'année dernière, dans TFS, on a nos user stories, nos test cases, on a mis des statuts de workflow de validation sur les test cases et les user stories pour dire « je suis capable de savoir quand on va démarrer une user story, est-ce que les test cases et les user stories ont été lus et validés par le business ?» Sachant qu'un test case et une user story, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, classiquement, un projet, ça va être 50, 60, 100 pages de spec. Une user story, ça va être une ligne de code pour dire une ligne de texte pour dire qu'est-ce que je fais, quel est l'objectif derrière, et puis les test cases qui vont sur 10, 15, 20 lignes décrire ce qu'il y a à faire. Donc c'est très synthétique, ça se lit très vite, et on peut valider relativement rapidement. Donc ça fait que, allez, 9 fois sur 10 maintenant, le truc que j'ai évoqué juste avant ne se produit plus. C'est-à-dire qu'on se retrouve bien à avoir quelque chose au final qu'on va livrer qui est conforme à ce qu'on nous a demandé au début. Voilà. Alors, DevOps, une solution pour réaccélérer. On était déjà accéléré, mais on s'est dit on va encore accélérer un peu plus. Donc le truc essentiel et qui nous fait perdre du temps, c'est l'erreur humaine. Donc c'est ce qui a été évoqué tout avant, je ne vais pas le redire. C'est que nous, ce qu'on avait avant la console, c'était comme beaucoup, tout un tas de checks lors d'une release à respecter. Je désinstalle de 2IS, ensuite je coupe la base de prod, etc., etc. Je passe des scripts, ensuite je mets à jour les MSI, etc. Donc ça venait un peu comme dans les avions avant de décoller, quoi. Sauf que je ne sais pas si vous regardez les trucs, c'est un peu sur les chaînes 19, 21, etc., les crashs d'avions. On voit que très souvent, les crashs d'avions avant, c'était parce que le pilote était fatigué, etc. Donc nous, on s'est dit, on va arrêter d'avoir des pilotes fatigués, autant que ce soit la machine qui soit fatiguée, et c'est elle qui fait tous ces checks. Donc on évite d'avoir des checks manuels, donc on essaie de tout contrôler derrière. Et que les étapes d'environnement en environnement soient checkées par le système. Donc au global, on a automatisé tout ce qui est packaging et déploiement. Alors pas avec des solutions standards, donc ça nous a coûté un peu cher. Ce qu'on a fait attention par contre, c'est d'être par exemple en PowerShell pour pouvoir migrer rapidement vers MS Release Management, ce qui est d'ailleurs en cours. D'automatiser tout ce qu'on a pu, que ce soit unitaire, intégration, smoke test, alors ça j'en parlerai pas parce que sinon on va rentrer dans un truc trop long. Et interface ou bout en bout, parce que toutes les applis ne sont pas web. Dans le service, on s'occupe du CRM, on a aussi la responsabilité de la conformité, tout ce qui est délit d'initié, etc. Mais aussi toute la direction financière, on récupère des flux de marge bancaire, d'encours, etc. Là, il n'y a pas d'interface, par contre, il y a tout un tas de traitements. Il n'empêche que ce soit interface ou traitement, on traite le traitement de l'entrée à sa sortie. On vérifie que ce qui est sorti est bien cohérent avec ce qu'on voulait que ça sorte. Alors, un truc qui est sur le côté que j'ai mis en rouge, c'est la performance, c'est que c'est un des derniers sujets qu'il faut qu'on attaque. Ça, c'est ce qui a été évoqué par Norm au tout début, c'est le temps que les gens perdent à attendre que la page s'affiche. Des fois, on va dire, on est super content, tiens, cette page s'affiche en 3 secondes, elle a plein d'informations, c'est super. Oui, mais il n'empêche que nous, le CRM, c'est 3600 utilisateurs. ben, on n'en a pas 3600 en permanence connectés, mais on en a 800 tous les jours quasiment en permanence. 800, s'ils perdent 3 secondes à chaque fois qu'ils vont sur leur dashboard, faites 800 fois 3, fois 3 secondes, fois X fois dans la journée, on fait perdre du temps à toute la boîte. Donc le truc, la performance, c'est essentiel. Et en général, on ne le mesure pas. Donc là, ça, c'est le dernier truc qu'il nous reste à faire, parce que tout est logué. On a un équivalent d'App Insight, mais qu'on a mis dans l'appli il y a une dizaine d'années, qui log tout. Il faut qu'on arrive à mieux tracer ça et à voir, et à dire, on n'est pas top, mais aujourd'hui, en moyenne, vous perdez 15 minutes, 20 minutes à attendre que les pages s'affichent. L'objectif serait peut-être qu'on passe à 12, puis à 11, puis à 10, etc., etc. Alors ensuite, le deuxième point essentiel, c'est la proximité et le partage entre les études et la production. Donc j'ai fait rapatrier les intervenants de production qui étaient partis à Singapour, je les ai fait rapatrier à Paris parce qu'on n'y arrivait pas, il faut être honnête. 12 heures de décalage, je ne parle pas un anglais top, il y a des fois, moi avec l'accent, je n'y arrive pas. Donc, et puis après, ça se perd dans les limbes d'un workflow qu'on ne comprend pas. Donc bon, on a réussi au moins à faire ça. T'as une question ?
Ouais, j'ai juste une question. Parce qu'on parle de partage études-production, mais en l'occurrence, c'est le business et la proximité avec le business, en fait.
Oui, alors les trois sont essentiels. Ce qu'il y a, c'est que rarement la production va être en lien avec le business. Par contre, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye de tenir au courant nos ops de qu'est-ce qu'il y a dans la prochaine release. Fonctionnellement, on les informe quand même de ce qui va arriver, mais surtout dans la prochaine release de qu'est-ce qui pourrait changer en termes d'archi, parce que c'est ça, eux, qui va les impacter. Alors, on est très proche avec le business, c'est-à-dire on les a au téléphone toute la journée, on va les voir quand on a besoin de les voir, mais c'est clair, parce que c'est des questions qui sont posées, par exemple, est-ce qu'on peut faire du DevOps offshore ? Alors, oui, en théorie, on peut en faire, mais déjà en local, c'est dur. Et pourquoi c'est encore plus dur en offshore ? C'est que il y en a qui voient DevOps comme, tiens, je colle un outil et c'est fini. C'est-à-dire, en gros, j'ai mis des process, je mets un outil. Non, les outils, ils bougent tout le temps. Pourquoi ils bougent ? Parce que les process, ils bougent. Donc, il faut réadapter les outils. Comment je fais pour réadapter les outils ? Il faut que je discute avec les ops pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans l'outil et comment je le retune. Si ce gars-là, il est à l'autre bout de la planète, qu'il a un décalage horaire de 6 heures, comme j'ai dit tout à l'heure, et qu'il parle un anglais que je ne comprends pas, l'outil ne bouge plus. Voilà. Et donc, on ne s'améliore plus et c'est fini. Ça a répondu à ta question ?
Yes.
Alors, dernier truc, et c'est ce que j'évoquais juste avant, c'est le suivi du run. Donc, très souvent, en général, on a les utilisateurs qui vont nous appeler pour dire « Tiens, c'est bizarre, ça marche à moitié le CRM. » Bon, on va se rendre compte qu'il y a un des deux serveurs de prod qui est tombé ou qu'il y a des dysfonctionnements. Et c'est embêtant parce que s'il y a du monitoring, c'est pas pour les chiens. Ce serait bien que ce soit tracé, traqué. Ça marche pas encore très bien. Par contre, ce qui est encore pire, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a bien évoqué Norm, c'est le suivi applicatif. C'est le fait qu'en fait, il y a aujourd'hui 9, pour pas dire 99% des applications qui sont livrées sans monitoring. Donc là, ce que je vais montrer, c'est que dans le CRM qu'on a nous, ça c'est le CRM. Donc il y a un onglet My Home, client pour la référentielle des clients, les contacts, les employés, etc. Ce n'est pas du CRM Dynamics, c'est du Made in House. Et il y a un onglet IT. Pourquoi il y a un onglet IT ? Parce que dans cette application, il y a 3600 utilisateurs, dont une trentaine d'IT supervisors, qui est l'équipe du CRM, qui a un rôle là-dedans, qui a accès aux clients, un peu ce qu'expliquait Antoine, où on a accès à la prod, on voit ce qui se passe dans l'appli, etc. Et surtout là, bon, il y a plein d'autres onglets que je ne vais pas montrer, mais celui-là qui est la synthèse, qui montre l'activité du CRM, combien d'utilisateurs quotidiens par jour distinct, combien de hits, et surtout l'exception chart qui est au milieu, où historiquement, quand on a lancé le CRM en décembre 2006, on avait pour 1000 pages consultées une vingtaine d'erreurs. Alors, soit carrément de la fatale, un beau message rouge qui dit « nul pointer exception », etc., ou nulle référence, ou des fois une page incomplète parce qu'il manque un morceau. On était à 20 pour 1000, donc là, bon, on ne le voit pas forcément très bien, parce que des fois, c'est très plat. Alors des fois, il y a des petites montées parce qu'il y a une livraison, il y a un truc qui dysfonctionne, mais en gros, on est tombé à 0,3 pour 1000. Comme on est passé de 20 à 0,3 pour 1000, c'est qu'en bas, il y a un petit truc subtil qui est ici. On a un petit algo qui tourne, qui récupère toutes les exceptions que rencontrent les personnes dans le système, qui essaye de les mettre par paquet, qui dit, par exemple, là, il y a eu 103 occurrences d'un problème fatal dans le dashboard. Ensuite, il y a eu 100 occurrences d'un autre problème, etc. Donc, on voit les plus importants. On ne va pas corriger le dernier à 18. On va d'abord, à chaque patch, à chaque release, on corrige les trois premiers. Et donc, de release en release, il y a de moins en moins de bugs, il y a moins en moins de dysfonctionnements dans le système. Et comment on fait ça ? Donc, c'est ce que j'ai entouré. On a un lien avec TFS. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une problématique qui est rencontrée dans le système, qui est agrégée en disant, voilà le nombre d'occurrences, on a le lien dans TFS. Et là, par exemple, ce qu'on sait sur celui qui est ici, c'est qu'il est en cours de correction, par exemple. Et ce qui se passe quand on passe en prod, après, soit il y a un rond vert qui va dire c'est bon, il est corrigé, il n'y a plus d'occurrence de ce problème, ou non, il y a encore des occurrences. Donc là, il faut encore corriger parce qu'on croyait qu'on l'avait corrigé, mais on ne l'a pas réellement corrigé. Alors, les freins à DevOps, c'est là où on va attaquer. Premier sujet, trouver les bons développeurs. Donc nous, on fait passer des tas de tests pour recruter nos développeurs. Si on ne fait pas passer de tests, qui est le cas de, encore une fois, 9 équipes sur 10, pour ne pas dire 99, bah, en gros, on recrute un peu n'importe qui. Nous, on fait passer des tests donc, à base de kata aujourd'hui. Où, alors pourquoi on est passé au kata? C'est qu'avant, on faisait passer des tests sur papier, alors, qui n'étaient pas scolaires. Hein, ça ne consistait pas à savoir est-ce que le développeur il sait ce que veut dire le mot-clé virtual, etc. Parce qu'on peut savoir ce que veut dire le mot-clé virtual, un peu comme je connais les mots en anglais, mais je ne sais pas parler anglais. Donc on vérifiait qu'il savait un petit peu parler anglais. Sauf que ça ne suffisait pas, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait, par exemple, qui ne savaient pas vraiment utiliser Visual Studio, et bien qu'ils sachent coder. Enfin, qu'ils connaissent les principes objets, etc. Donc on a des kata aujourd'hui qui vérifient que les développeurs savent coder, c'est-à-dire maîtrisent les mécanismes de polymorphisme, d'encapsulation, je suis désolé, c'est un petit peu vulgaire comme terme, mais qui sont importants parce que s'ils ne savent pas coder, ben derrière l'application, on ne saura pas réagir parce qu'ils vont nous créer de la dette technique dans l'application, c'est ce qu'évoquait Antoine tout à l'heure, et ce qu'a dit Norm aussi, il faut gérer la dette technique. Nous, on a une énergie monumentale qui est dépensée sur la dette technique. Et si je peux vous donner un conseil, parce qu'on va commencer au conseil, pensez modulaire. Si vous faites une nouvelle application, vous la faites modulaire. Nous, le CRM, il est monolithique historiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a un budget limité. On nous a dit, vous avez 867 jours pour faire le CRM. Alors pourquoi 867? C'est que le gars d'avant, il avait chiffré à 867. Et moi, j'ai récupéré 867. Donc, on a fait un CRM avec 867 jours pour faire cheap, bah, monolithique. Sauf qu'on se retrouve 10 ans plus tard avec un truc monolithique où quand je veux toucher un morceau, ça casse un morceau de l'autre côté, etc. Donc qu'est-ce qu'on a entamé depuis 2 ans et demi? Modularisation de l'application, et ça porte ses fruits, parce que le premier module qu'on a sorti, c'est le module Results, qui affiche tous les résultats financiers. Ben, ce truc-là, maintenant, il livre à des fréquences qu'il veut. Quand il veut livrer tous les 2 jours, il livre tous les 2 jours. Et surtout, il n'impacte pas le reste du système. Et là, on est en train de modulariser morceau par morceau et de sortir. Sauf que modulariser, ça coûte cher, et qu'il vaut mieux l'avoir fait au début. Voilà.
Qu'est-ce que tu recherches, juste pour préciser un petit peu l'idée, en termes de profil d'un bon développeur?
Alors, un bon développeur, alors, il s'est visé et tiré normalement. En fait, ce qu'on fait comme test, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est maîtriser le développement objet, ça prend 1, 2, voire 3 ans, voire 20 ou 30 ans si on ne sait pas le faire. Et en gros, on ira à la retraite sans avoir vraiment su coder. J'ai vu quelqu'un qui, parce qu'on fait passer donc des katas à distance avant de faire déplacer les gens, c'est-à-dire on fait déplacer les gens quand on a vérifié quand même que le niveau est là. Et 3, 4 fois sur 5, on ne les fait pas venir parce que le niveau est vraiment déplorable. Je vais vous l'illustrer rapidement. Hein. L'héritage, c'est un truc très simple. C'est vous allez par exemple avoir une classe véhicule et puis je fais hériter une classe voiture, une classe moto, une classe camion, etc. Là, on a un kata qui teste du blackjack. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, c'est avec 2 cartes et je compte des points en fonction des cartes. Donc un 2, ça vaut 2, un 3, ça vaut 3, un 10, un valet, ça vaut 10 aussi. Et ben, j'ai quelqu'un dans le code qui a réussi à faire dériver une classe. Alors pourquoi une classe? J'en sais rien. Roi de la dame du valet, le valet du 10. Et pourquoi? J'en sais rien. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui recrutent ce type de développeurs parce qu'ils ne l'ont pas testé. Voilà. Donc nous, bien évidemment, on a dit non, on ne souhaite pas le voir. Ça ne nous intéresse pas, on va passer à la suite. Bon, tous les développeurs ne sont pas comme ça, mais ça, par exemple, c'est un premier truc important. Le deuxième truc, et c'est pour ça qu'on fait du recrutement collaboratif et qu'on recrute à 7, on fait passer 3 katas, un en objet C sharp, un en SQL, un en web. Puis à la fin, je fais le dernier contrôle. Ce qu'on essaye de faire avec le kata collaboratif, c'est de vérifier que le développeur qu'on va rentrer, et c'est ce qui a commencé à être évoqué tout à l'heure aussi avec Antoine, c'est est-ce qu'il a le sens client? C'est-à-dire, est-ce que c'est un gars qui va coder pour se faire plaisir? Ou est-ce que c'est bien quelqu'un qui va mettre le service au premier rang et qui va vraiment travailler là-dessus? Et à 7, en général, déjà, on va arriver à voir si le gars va réussir à s'intégrer dans l'équipe. On voit des gens tout de suite, on fait un peu bizarre, on ne sent pas la personne. Il sait coder, mais on ne le sent pas, donc on ne va pas le prendre. Donc il y a la problématique de l'intégration dans la personne. Ce qui a aussi évoqué Norm avec les plateaux où aujourd'hui tout le monde se connaît. C'est bien de se connaître, c'est bien d'enlever les murs, mais si on ne s'entend pas, c'est un peu compliqué. Donc on teste ça, le niveau en objet, parce que c'est trop long à former. Et ensuite, la capacité de la personne à rendre service et pas à se rendre service à soi-même. Quoi. Voilà. Par contre, après, notre objectif à nous, c'est de faire que la mission soit la plus motivante possible, d'être plutôt au taquet en termes de technologie, pour qu'un développeur qui a mis ses compétences au service, lui, gagne quelque chose en retour. C'est-à-dire que ce ne soit pas qu'une mission dans le sens, tu viens un peu presse citron, on tire tout ce qu'on peut de chez toi.
Et puis qu'il reste à la suite aussi.
Pardon ?
Et puis qu'il reste à la suite, effectivement. qu'ils soient motivés à rester.
Ah oui, oui, oui. Bon, après, comme toutes les grosses boîtes, je ne sais pas combien de personnes des grosses boîtes ici, mais on a du turnover à 3 ans imposé pour la plupart. Donc il faut que tous les 3 ans, on renouvelle le sang, hein, un peu vampirique dans nos entreprises. Ils ont le droit d'aller se laver un an ou deux, puis après, ils peuvent revenir. Mais voilà. Donc ça, c'était les bons développeurs. Donc la question, c'est combien connaissent réellement DevOps, Agile, Continuous, etc. Donc connaissent à peu près l'ALM, très peu. Donc en général, on les forme. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui ont pratiqué encore moins? Est-ce qu'il y en a qui le maîtrisent encore moins? Et puis, est-ce qu'il y en a qui l'améliorent? C'est-à-dire, ça, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure aussi. C'est dans l'amélioration continue, le plus important, c'est la détection d'erreurs. C'est-à-dire, combien de fois je vois des morning meetings ou des daily meetings, hein, c'est la même chose, où en fait, ben, les gars se voient, le projet décale, mais il n'y a pas de problème. C'est pas possible. Si le projet décale, c'est qu'il y a un problème. Mais les gars n'ont aucun problème à aller se rasseoir, continuer à coder aujourd'hui. Voilà. Donc le travail essentiel, c'est ça. C'est ce qu'on essaye de chercher chez les développeurs, c'est ceux qui vont dire « Non, les mecs, ça déconne, on ne va pas continuer avec une build qui a dérivé de 1 minute à 3 minutes. » Parce que quand quelqu'un prend son code, ça fait 2 minutes de perdu, fois 30 personnes, fois X compilations par jour. Donc il faut avoir le courage de s'attaquer à ces problèmes, et tous les développeurs ne veulent pas s'attaquer à ces problèmes. Et même, je vais vous le dire franchement, sur les 30 développeurs qu'on a dans le service, les 30 ne le font pas. Il y en a, ils ont peur, parce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est ce que Julien va montrer tout à l'heure, c'est un peu costaud ces trucs-là. Donc il y a la peur du risque, en fait. Après, alors, encore plus chaud, il faut convaincre ses pairs. Donc en France, parce qu'on est en France, hein, on est un peu cliché, il faut être clair qu'on est un peu en retard, quand on regarde autour, et qu'un des trucs que j'entends très souvent, quand par exemple on a voulu faire des hotfix à chaud, c'est-à-dire on a deux serveurs web, on en dégrafe un, on le met à jour, on le regrafe, on dégrafe le deuxième pour que le service y reste up. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu veux faire ça? T'arrêtes l'appli pendant 2 heures à midi et puis basta. Oui, mais si les gars, ils ont besoin du CRM, on fait comment? Oh bah il attendra 2 heures, c'est pas la mort. Donc voilà, il y a déjà les préjugés qui sont là, qu'il faut arriver à faire sauter, et c'est cher.
Et comment t'as réussi à justement convaincre tes pairs sur le sujet?
On les convainc pas. On le fait. Voilà, un truc important, que ce soit en DevOps, en Agile, il faut faire. C'est-à-dire, si vous demandez la permission, vous ne pourrez jamais le faire. Donc le truc qu'il faut faire, il ne faut surtout pas demander la permission. Voilà. Et donc automatiser, par contre, une réalité, c'est que ça coûte cher. Donc un des autres problèmes, c'est le fait que dans les budgets informatiques qui sont alloués, il y a un budget alloué au projet, investissement, courant, il y a du budget alloué au service de base, donc tout ce qu'on appelle le support, la maintenance corrective, etc. Par contre, amélioration, zéro, il n'y a rien. Donc le problème, c'est qu'il faut arriver à trouver du gras, à dégager dans ce qu'on fait du gras pour arriver à automatiser. Parce que si on ne l'automatise pas, ça nous coûtera de plus en plus cher. Alors non seulement il faut arriver à trouver ce budget qui n'existe pas, mais en plus, ça coûte cher. C'est-à-dire que par exemple, si je reparle de Selenium, on a claqué, mais brousouf là-dedans. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on a claqué, mais c'est monstrueux. Voilà. Donc un truc qui est important, et c'est là où on attend des acteurs comme Microsoft, c'est qu'ils nous simplifient, qu'ils nous stabilisent ces outils. Moi, je trouve pas normal qu'au bout de 9 ans, enfin 9 ans, j'exagère, 2009 à 2016, ça fait 7 ans, qu'on ait toujours des tests instables. Alors, je sais pas, ils discutent avec Selenium, j'en sais rien, mais ils arrivent à voir à ce que les tests, ils tournent la nuit et qu'ils soient pas instables, quoi. Voilà. Alors, c'est moins instable qu'avant, on sent que ça s'améliore, mais toujours un petit peu compliqué et ça coûte très cher. Et ensuite, alors, le truc le plus important, c'est reconnaître ses clients internes comme externes. C'est-à-dire, vous prenez le e-commerce, parce que j'avais fait une présentation de TechDesk l'année dernière avec quelqu'un de Cdiscount. Si le site s'arrête 5 minutes, 5 minutes, j'exagère, mais une heure, ils perdent des millions d'euros. Donc il est hors de question que le site s'arrête. Donc c'est blindé de tests. J'ai un copain qui est aussi chez Cdiscount au test. C'est une préoccupation principale. Et le client externe, donc celui qui va ramener les brousoufs dans l'entreprise, il est vu comme fondamental et toute l'énergie est dépensée là-dessus. Dans les grosses entreprises, type bancaire, Crédit Agricole, BNP, SGIB, et même les autres, hein, on est tous à peu près dedans, les clients internes sont captifs. Donc en gros, ce que j'ai dit tout à l'heure, si on arrête l'appli pendant 2 heures, c'est pas grave, on ne perd pas de pognon. Si on en perd, parce que la personne, elle n'est pas efficace pendant ces 2 heures-là, elle n'a pas accès à l'information auquel elle aurait dû, mais ce n'est pas autant mesurable et autant impactant que dans une société du e-commerce. Donc le truc, c'est d'arriver à expliquer aux équipes IT de ces grosses entreprises qui ont des clients captifs, qui sont vos clients et qui font fonctionner la boîte. Et que comme l'a dit Norm tout à l'heure, je sais pas, nous, moi ça m'a donné l'idée, hein, c'est la première fois que je note autant de trucs, c'est il faut qu'on arrive à mesurer combien nous, le CRM, fait perdre de temps à l'entreprise. En disant, bah voilà, aujourd'hui, en moyenne, quand un utilisateur se connecte 30 fois ou 40 fois dans l'application, il a perdu 4 minutes 30 d'attente à attendre que les pages s'affichent. Et ça, c'est fondamental. Et on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on estime que, oh, bah, de toute façon, il restera 2 heures plus tard ce soir, il est payé assez cher, hein, senior banqueur, pour être capable de faire ça. Voilà. Alors, et le business dans tout ça? Alors, déjà, souvent, vu de l'IT, il est très, 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 très loin. C'est-à-dire que DevOps, c'est trop compliqué pour lui. Vous imaginez, déjà, une ligne de code, il ne sait pas ce que c'est, etc. Donc on va rendre ça bien transparent, même invisible, comme ça il ne le verra pas du tout. Et puis de toute façon, nous, DevOps, ça va nous aider, nous, mais alors lui, on s'en fout.
Donc tu évites de faire de l'IT for l'IT, en fait.
Bah, nous, on évite, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes IT qui sont dans ce mode-là. C'est-à-dire qu'ils sont dans des modes très coupés du métier, où en gros, ils sont plus à expliquer pourquoi on ne peut pas livrer la semaine prochaine, ni le mois prochain, mais peut-être dans 3 ou 6 mois. Voilà. Et que ce qu'il faut, c'est rendre ça transparent. Donc nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, qui pilote les projets, c'est plus l'IT, c'est le métier. C'est-à-dire quand à un moment, on voit qu'un projet commence à décaler parce qu'on ne va soit pas à la vitesse prévue, parce qu'on rencontre des difficultés techniques, soit qu'on manque de monde, etc., ben c'est le métier qui va décider, parce qu'on a tout un tas de graphes qu'on leur montre. Ben, tu me remets un gars là-dessus, ça fait quoi ? On a un truc qui calcule en automatique, on a customisé TFS pour ça, pour recalculer des dates en automatique. Donc on n'a pas de PMO qui met des tas de chars, des tas de barres à jour dans Excel. Ça se calcule automatiquement en temps réel, comme l'expliquait Norm. Et ça fait que tout de suite, le client, lui, décide, tu me remets encore une personne. Ouais, bon, après, il y a des limites, on ne peut pas paralyser à mort, mais c'est le métier qui va décider de est-ce qu'on met ou pas des personnes. Combien de temps ? On a dépassé ? Bon, alors j'avance. Et donc le business, lui, il va dire qu'en gros, on ne l'écoute pas. Et il a raison, parce qu'on ne l'écoute pas souvent. Et en tout cas, DevOps, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant ? Parce que c'est tout simplement la réalité. Ce qu'on va voir juste après, c'est que le monde bouge. Et il ne bouge pas depuis 5 minutes. Ça fait quelques millions d'années que le monde y bouge. Alors, il s'accélère, parce qu'on voit que des choses qui duraient 3, 4, 5 ans, aujourd'hui, ça dure quelques mois. On voit des applications iPhone ou Windows Phone qui ne durent que quelques mois. Et donc, le DevOps, vu du business, en tout cas pour nous, c'est fashion. Hein. Donc, voilà, par exemple, notre responsable du marketing, quand il parle à la direction générale, il ne dit pas on a un IT agile. Non, on est agile. Il s'inclut dedans. On n'anticipe pas les besoins, on les prépare. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le fait que l'organisation sectorielle, on l'a carrément implémentée en avance. Qu'ils ne changent pas d'avis. Ça, c'est le premier truc de l'IT. C'est dès que le métier vient en disant « Ah, on voudrait ça différent. Ouais, alors pourquoi c'est compliqué ?» Non, ils s'adaptent. Et nous, on doit s'adapter. Sinon, si on n'adapte pas l'IT au business, l'entreprise, elle coule. Et ça, truc essentiel, ils ne testent pas nos solutions. C'est-à-dire combien de fois on voit des métiers ou des MOA qui passent leur temps à tester ce qui est délivré. Ça, c'est fini. Enfin, on essaie de le faire le moins possible. Ce qu'ils font par contre, ils vont tester ce qu'on a livré en qualif où il y a tout un tas de tests automatisés qui ont validé les 4 tests qu'on a vus en amont. Et eux, tout ce qu'ils vont faire, c'est vérifier qu'ils n'ont eux rien oublié. On n'est plus dans de la validation de est-ce que ce que j'ai demandé est conforme. Ça, on s'en fout, c'est fait. Par contre, est-ce que finalement ce que j'ai demandé, c'est bien ce qu'il fallait ? Et ils vont très souvent se rendre compte que tiens, il y a un 4 tests qu'on a oublié ou il y a un 4 tests qui est incomplet, on va le recompléter, remodifier le code, etc. Et puis ensuite, le DevOps, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient que c'est de plus en plus fiable, qu'on livre de plus en plus souvent, etc. etc. J'avance. Alors, livrer, c'est dangereux, parce qu'on peut avoir des risques de régression, etc. Et qu'il faut relivrer des trucs en urgence, qu'on perd de la confiance, etc. Donc la norme, il a évoqué vite fait les feature flips tout à l'heure. Et c'est quoi un feature flip ? C'est du tag dans le code qui permet de dire, au lieu de livrer la fonctionnalité en prod, en gros, je mets un flag, on-off, et je peux même aller plus loin, parce que le on-off permet de désactiver la fonctionnalité si jamais elle ne marche pas en prod. C'est carrément dire, je mets des populations à côté. Par exemple, Amazon, quand il livre des choses, il ne livre pas pour tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur une page Amazon qui dit, désolé, le site est en maintenance ou il y a un bug, arrive jamais. Donc comment ils font ça ? C'est relativement simple. Ils mettent du feature flip avec des populations limitées sur des bêta-testeurs en prod. Ils vérifient que ça marche et puis après, ils ouvrent de plus en plus largement population. Donc nous, quand on livre, on va ouvrir à 10, 20, 30 personnes. Si ça marche, 50, 100, puis à la fin, on ouvre à tout le monde. Et surtout, si ça ne marche pas, on peut désactiver tout de suite. Ensuite, donner les clés au business, c'est dangereux. Si jamais on lui donne l'application, il peut laisser le bébé au bord de la route, un truc un peu dingue, ou carrément prendre son skate et aller sur la vague la plus haute, ou se mettre à faire des trucs de dingue entre des pylônes, voire même faire le tour du monde en avion. Mais heureusement, parce que c'est ça qu'il doit faire. S'il ne fait pas ça, l'entreprise, elle coule. C'est-à-dire, si l'entreprise n'est pas innovante, derrière, on a une IT qui est de plus en plus... Aujourd'hui, c'est ce qu'a dit tous les interlocuteurs avant, les entreprises deviennent software. Donc si le software, derrière, il supporte pas l'entreprise, on va se retrouver dans un truc où on va être en haut et on va rester en haut. On ne fera pas d'avion, etc. Et en plus, ça ne marchera pas. Et voilà. Donc nous, on doit être capable de faire ça. Rapidement, par rapport au release management, très souvent, c'était études prod, voire même prod qui déployait. Donc là, nous, aujourd'hui, c'est les devs qui mettent à dispo. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est notre objectif pour la fin d'année, c'est le business qui clique et qui fait carrément les déploiements lui-même. Donc non seulement il va piloter le projet, ce qui est le cas aujourd'hui en partie quand même, mais en plus il va piloter le run. C'est lui qui va dire ça part en prod. Voilà. Avec un calendrier de la prod qui va dire ah non, là sur cette heure-là, c'est pas possible, etc. Et la prod est juste en support. Ce qui devrait être son rôle depuis longtemps. Voilà, mais aussi en aval. Je suis désolé, je passe, hein, parce que voilà. User voice, oui, il faut juste écouter les clients, c'est pratique. Donc il faut avoir un retour et un feedback.
Ouais, juste comment tu perçois, tu mesures l'utilisation de ce qui est quelque part livré.
Bah on a tout logué, hein. Tout est logué, il faut juste qu'on analyse et des fois on n'a pas le temps d'analyser. Ça, c'est aussi, si on met plein de mesures et qu'on a plein de graphes, il faut passer dans tous les graphes, voir, etc. Donc c'est ça qui est plus chaud. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Après, c'est comment, qui je mets derrière pour exploiter tout ça, faire les retours. Et... Voilà. C'est du temps. Et dernière slide, là j'ai fini. Nos vrais clients. C'est-à-dire très souvent, bon, il y a le pavé du haut, c'est l'équipe de dev et de prod, donc unifiée, qui ont des attentes. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est augmenter la productivité. Ils veulent automatiser pour éviter les erreurs. Très souvent, les seuls utilisateurs qu'on croit, ou nos clients, c'est les users management, donc le top management qui a demandé une super appli, etc. Et on croit que c'est eux qui vont nous donner l'état de l'appli. Non, c'est les utilisateurs réels. Les users management, eux, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Quand est-ce que ça arrive et combien ça coûte? Après, le reste, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Les utilisateurs réels, eux, par contre, ils veulent que ce soit utile, parce que si ça ne sert à rien, si on a codé des fonctionnalités qui ne servent à rien, c'est nul. S'il n'y a pas la fonctionnalité principale, c'est nul aussi. Est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que c'est disponible? Est-ce que c'est performant? Est-ce que c'est sécurisé? Et puis après, ben, y a le management IT avec mes chefs qui, eux, veulent des chiffres et savoir auquel le camp, mais à combien, et finalement, où est-ce qu'on va. Donc ça, c'est la vie. Oula, je suis pas sur le bon truc. Et donc le truc fondamental, c'est les real users qui sont le plus important, et ce qu'a dit Norm et tout le monde, c'est qu'il faut suivre l'activité, et c'est eux qui font la boucle de rétroaction. Donc ça, c'est une boucle de rétroaction en électronique. C'est comme ça que marchent beaucoup de trucs. C'est le signal est divergent au début, et puis ça converge de plus en plus. Donc ce truc-là est fondamental, et surtout, c'est eux qui vont donner la vision, et qui vont dire où est-ce qu'on va réellement. Voilà. J'ai fini.
Bon, très vite, juste histoire de conclure rapidement notre présentation avec Christophe. Donc l'un des points clés quand on veut discuter avec le business, c'est bien d'être capable d'identifier les clés de confiance qui vont faire en sorte qu'on a cette collaboration avec le business, mais aussi les développeurs et les opérations. C'est toujours cette difficulté, c'est comment je peux identifier cette clé de confiance, qu'est-ce que demande le business, la valeur elle-même qui peut attendre derrière, comment je vais définir les priorités sur mes investissements, sur les budgets, les développements que je veux mettre en avant, comment est-ce que je peux et pourquoi pas aller plus vite. Ça, c'est les questions qu'on peut se poser régulièrement. Les outils, l'automatisation, l'ALM, entre autres, est une des réponses, mais peut-être que la priorité du business, c'est pas forcément d'aller plus vite. Peut-être que derrière, lui, il veut, pourquoi pas, être capable de livrer de la valeur plus attendue par rapport à ses priorités business elles-mêmes. C'est pas toujours aller plus vite. Puis aussi, on a cette problématique, quels sont les coûts, où se trouvent mes structures de coûts dans mes développements. On peut avoir ces difficultés que peut se poser le business et comment on peut l'adresser là. Donc ça, c'est les points qu'il faut adresser dans le DevOps, qu'il faut après, bien sûr, identifier et discuter. L'un des outils qui va pouvoir éventuellement nous aider à mettre en œuvre du DevOps et justement à travailler sur cette valeur-là, ça va être de travailler, par exemple, ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Donc c'est, comme l'a dit Christophe, c'est pas qu'une question d'outils, c'est aussi une question de processus. Et ben, avant de pouvoir automatiser et mettre en place ces outils, c'est d'aller comprendre vos processus. Et donc, le but, c'est de modéliser de bout en bout de la première idée du business jusqu'à la prod, et même, voire même la maintenance opérationnelle, l'ensemble de toutes ces activités-là, identifier qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, et après, vous allez pouvoir automatiser beaucoup plus facilement. C'est en ayant bien cette vision de bout en bout, et pas que se concentrer que d'un côté le développement ou que les opérations, bien comprendre toute la chaîne, et là, vous allez pouvoir mettre en œuvre l'automatisation, ce sera beaucoup plus facile. Autre point qui peut être important aussi pour gagner la confiance du business, et qu'on a toujours cette difficulté, c'est que on a plusieurs projets qui devaient être livrés. On a des équipes réduites, un budget à 867 jours, c'était bien ça, il faut que tu fasses avec et tu n'as pas le choix. Et donc, du coup, comment je fais pour gérer mes projets en parallèle? Et puis tout d'un coup, il y a le business qui demande, bah, voilà, j'ai deux autres projets qui arrivent. Ah ben, désolé, moi, je ne peux pas faire plus que ça. Tu vas falloir attendre que je vais livrer mes projets 1 et 2 pour pouvoir m'occuper du reste, parce que ben, j'ai des équipes réduites, je ne peux pas faire plus. Donc on a cette difficulté-là. Du coup, ben, forcément, par rapport à si on veut viser un marché où on a des besoins qui sont apportés par le métier, ben, toute cette période-là, c'est des périodes qui vont être du point de vue du métier, du gaspillage. On est incapable de livrer, de répondre aux besoins du métier. C'est une perte de temps, ça peut être une perte d'argent. On peut manquer des opportunités business vis-à-vis du marché. Alors, je ne vous parle même pas du projet numéro 5, parce que lui, il va attendre quasiment un an avant de pouvoir être livré. Ben, le DevOps, et entre autres, ben, travailler sur d'une manière modulaire sur des fonctionnalités ou sur des features, ben, ça va être de se concentrer sur ce qu'on appelle le produit viable minimum. Donc, ça va être d'abord, ben, sur le projet 1, on va le découper, on va livrer le plus tôt possible la vraie valeur qui va être attendue par le métier, parce qu'on n'a pas forcément besoin de livrer tout le projet en lui-même pour qu'il commence à avoir des bénéfices. On va se concentrer sur la fonction clé qui est attendue du projet pour générer de la valeur le plus tôt possible. Et comme forcément, le découpage est beaucoup plus fin, eh ben, du coup, on peut aussi lancer le deuxième projet en parallèle, et puis pourquoi pas même le troisième projet, ce qui fait que ben, on va générer beaucoup plus rapidement de la valeur. Alors certes, la valeur ne sera pas au maximum au bout des 6 mois qu'on pouvait attendre, ça va être plus décalé, mais on est déjà beaucoup plus présent, on va marquer sa présence sur le marché aussi. On est capable du coup d'avoir un retour et pourquoi pas un ROI beaucoup plus rapide. Et ça va être ça qui va être important. Et forcément, ben, derrière, le projet 5, par exemple, qui lui devait démarrer au bout de 12 mois, ben, il va démarrer seulement au bout de 3 mois. On va déjà être capable d'avoir un retour vis-à-vis du métier. Et puis, pourquoi pas, ben, commencer à faire des premières itérations et être sûr que l'idée 5 qu'on pouvait avoir eh ben, va bien correspondre aux besoins du métier et pas attendre un an pour commencer à le mettre en œuvre. Ce qui va être important, c'est aussi ben, par rapport au projet qu'on a mis en œuvre, c'est de vérifier la validité de ce projet. Vérifier, entre autres avec la télémétrie, quel est l'usage ? Est-ce que ce que je livre correspond bien aux besoins de mes clients ? Quelle est l'utilisation qu'on a été faite ? Où est-ce que cette utilisation se fait dans le monde ? Norm en avait parlé ce matin, savoir quelles sont les plaques qu'il utilise, à quel moment, quelle est la fonctionnalité qui est utilisée, ça va être important. Il faut mettre en œuvre de la télémétrie. C'est quelque chose qui est malheureusement, comme tu le disais toi-même Christophe, quelque chose assez souvent oublié. Il faut bien penser ça dès en amont, quand vous commencez vos développements. C'est bien penser le plus tôt possible de mettre en place des outils d'analyse. Insight, entre autres, va vous aider à faire ça, pour pouvoir comprendre l'usage qui va être fait des applications de ce que vous allez livrer. Et du coup, ça va aussi vous permettre d'ajuster vos priorités en termes de gestion de portefeuille de projet pour pouvoir vous concentrer sur ce qui va apporter directement de la valeur pour le business.